1901, place aux associations.
Et à 1901, aujourd'hui, Solidarité Prison-Justice, représentée par deux dames, Madame Brigitte Le Pennois, la présidente, et Madame Martine Ménissier, la bénévole, que nous présente Chantal.
Oui, donc bonjour. Donc nous recevons effectivement Madame Brigitte Le Pennois, qui est présidente de l'association Solidarité Prison-Justice, et Madame Martine Ménissier, qui est bénévole à l'association. Alors, c'est une association qui s'est créée en 93. Et peut-être ce sera intéressant qu'on revienne un peu sur l'origine de cette association. Comment s'est-elle créée? Quelles sont les initiatives de départ, en fait?
Alors, à l'origine de l'association, nous avons un groupe de réflexion qui s'est constitué avec une personne très connue des Chalonnais, c'est Jean-Marie, l'abbé Jean-Marie Grézer. Il y avait également dans le groupe, il y avait Jacques Montrousseau du Secours catholique. Il y avait également un pasteur et des visiteurs de prison et des assistants sociaux. Donc ce groupe a monté toute une trame de réflexion pendant plusieurs années. C'est des réflexions générales sur la maison d'arrêt de Chalon, sur les conditions de détention, la réinsertion. Et rapidement, le cheminement s'est fait par rapport aux familles qui attendaient nombreuses devant la porte d'entrée. Et avec notamment beaucoup de femmes avec des enfants dans les bras, et surtout également des familles qui venaient de loin. Donc le groupe s'est orienté sur
Elles étaient à l'entrée et personne pour les accueillir.
Donc la réflexion s'est conduite pour réfléchir rapidement pour monter une structure, donc une association, pour que l'association puisse toucher des subventions, trouver un local. Et l'association donc établie en 1993. Les statuts ont été signés en 1993 et un local a été trouvé en 1998, juste en face.
En face de l'entrée et de la sortie de la maison d'arrêt.
Voilà, et le local était occupé jusqu'à cette date-là. C'était un chauffagiste de Chalon-Champagne avec sa vitrine. Donc on est dans le bâtiment occupé auparavant par le chauffagiste.
D'accord, donc on l'appelle la Maison Rose, c'est
voilà,
ça?
Voilà, c'est le nom qui est donné, la Maison Rose.
Un joli nom.
Oui. Donc voilà sur l'origine de l'association, ce qui a permis d'aider les familles ou les amis, puisque c'est pas simple, j'imagine, de rentrer dans la prison. Et voilà. Et est-ce que vous pourriez nous décliner un petit peu les missions principales de cette association?
Justement, pour faire suite à ce que disait Brigitte, la mission principale de l'association Solidarité Prison Justice, c'est d'accueillir les familles qui viennent au parloir. Donc les familles ou les amis, c'est-à-dire tous les proches des personnes détenues à la maison d'arrêt. Donc, comme l'a dit Brigitte, souvent ils attendaient à la porte, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils attendaient patiemment qu'on leur ouvre la porte. Et là, les gens qui arrivent peuvent venir s'abriter au sein de notre maison. Donc on les accueille déjà avec un café, une boisson, de l'eau, etc. Mais surtout, la mission principale, c'est d'être une oreille très attentive et surtout savoir écouter et savoir comprendre, ne pas juger, hein. Parce que, comme on le disait, il y a quelques...
Dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux ne pas juger.
Ne pas juger, parce que nous ne sommes pas là pour dire vous avez fait, votre mari a fait quelque chose de mal, votre conjoint, enfin votre fils. Non, nous on est là pour les accueillir, pour leur offrir une place dans notre maison. Ils peuvent aller, excusez-moi de parler de cette chose, mais aussi ils viennent souvent de loin, aller aux toilettes, se recoiffer, être bien, trouver un lieu vraiment d'accueil. Évidemment, ils parlent, là, notre rôle, c'est de les écouter. Et surtout d'être très très discret. Surtout, ça nous arrive quand on les rencontre à l'extérieur aussi.
Ah oui,
il faut faire très attention. Voilà.
Donc une forme de, ils savent qu'ils sont en toute confidentialité, oui. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler de leurs problèmes, de leurs difficultés peut-être, de l'image que les gens leur renvoient, parce que j'imagine que l'extérieur n'est pas toujours sympa avec les familles de détenus.
Oui, souvent les gens sont très durs, oui. Avec ces personnes qui arrivent. Et donc, c'est pas facile pour eux. En plus, bon, souvent, ces personnes sont en état de panique, donc on doit les rassurer. Et quand on est en état de panique, on a beaucoup de mal à gérer tout ce qui est administratif.
Oui.
Donc, nous les aidons aussi beaucoup dans ce domaine-là. Donc, c'est-à-dire, par exemple, la réserve, enfin, déjà demander le permis de visite à certaines personnes.
Et parce que tout ça, ce sont des démarches à faire.
Voilà.
On rentre pas à la prison comme ça en disant bonjour, je suis la femme de.
Non. Il faut demander un permis de visite. Donc c'est une démarche qui peut être faite. On peut se renseigner sur internet, on peut trouver, mais parfois ces personnes qui viennent nous sollicitent pour qu'on les aide à remplir le dossier. On a même aussi les formulaires, etc.
Et ça se demande auprès de la prison directement ou.
Alors là, ça dépend si la personne est en attente de jugement ou si elle est jugée. Je pense que là, Brigitte, elle pourra mieux que moi répondre à la question.
Alors, si la personne est en attente de jugement, le dossier doit être déposé auprès du magistrat qui suit l'affaire.
D'accord.
Et il va donner son accord ou pas. S'il donne son accord, la décision est transmise à la maison d'arrêt qui va établir le permis de visite.
D'accord.
Si la personne est incarcérée et déjà jugée, la famille va envoyer son dossier, donc soit formule papier, soit sur internet, et ça va partir directement à la maison d'arrêt.
D'accord.
Et c'est le chef d'établissement qui décide ou pas d'accorder un permis. Alors, il y a des refus de permis, notamment dans le cas des violences conjugales. La réglementation permet au chef d'établissement, comme au magistrat, de se baser sur le principe les parloirs doivent rester sécurisés. Donc, s'il y a violence conjugale déjà au domicile, il peut y avoir peut-être un problème de...
Risque.
Voilà.
Mais ils veulent éviter tout risque.
Oui. Donc, ils ont une base juridique qui leur permet d'interdire...
Donc, il y a des femmes, je vais dire, parce que c'est souvent plutôt les femmes victimes de violence conjugale, qui, malgré tout, demandent quand même à rencontrer leur compagnon, conjoint.
On pourra pour parler
après. C'est toute la difficulté des femmes battues.
C'est la complexité.
Voilà. Oui, c'est
donc,
compliqué.
On entend beaucoup de choses.
Oui.
Qui n'est pas toujours facile à comprendre pour le commun des mortels.
Tout à fait.
Il y a des gens qui disent, si elle est battue, elle n'a qu'à partir.
Oui.
C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a de l'emprise, enfin bon.
Oui,
puis on n'est pas là pour parler de ça, mais quand même.
elles auront également les arguments qu'il faut.
Et puis après, les gosses,
ça peut être cautionné par le magistrat qui décide, le jour de l'audience, effectivement, de faire incarcérer la personne violente, le mari violent, si c'est le mari qui était violent. Et par contre, il ne coupe pas il n'interdit pas le contact.
Le lien.
Oui, lien entre la victime et la personne incarcérée. Donc là, le dernier cas de figure, enfin qui n'a pas abouti, une demande d'accompagnement d'enfant au parloir, c'était ça. La dame s'est battue. Et bon, maintenant, depuis le monsieur, il a des autorisations de sortie. Mais elle dit, je me bats là-dessus. Elle dit, le juge était à l'audience. Il ne m'a pas interdit de voir mon mari.
Et puis peut-être pour les enfants aussi.
Eh bien, il y a des enfants.
Et donc
c'est toute la complexité de la violence conjugale,
qui fera peut-être l'objet un jour d'une autre émission, parce que c'est très complexe en fait.
Pour en revenir aux missions, justement, on parlait de réservation de parloirs. Donc les parloirs, on peut les réserver soit par téléphone à la maison d'arrêt, mais c'est pas très facile parce qu'il y a des créneaux horaires qui sont assez restreints, soit au sein de l'association, on a une borne de réservation. En ce moment, elle est en panne, c'est bien dommage, mais bon, j'espère qu'elle va remarcher.
Elle va être réparée.
Et en fait, cette borne, justement, est très, très utilisée. Et donc, on aide les bénévoles qui assurent les permanences, aident justement les familles ou les amis des personnes détenues à réserver donc par cette borne.
Oui, parce qu'il peut y avoir des gens pas très... Ou par exemple étrangers ou qui ne maîtrisent pas bien les démarches.
Et en panique.
Oui.
Même en panique, simplement, des gens, ils arrivent, quelquefois les gens sont énervés, donc ils ont besoin d'être rassurés, donc on les aide aussi à ce niveau-là. Même des gens qui auraient su faire cette démarche dans d'autres situations.
Oui, là, ils sont dans une situation un petit peu plus...
De stress.
Stressant.
Et concrètement, cette borne, ça fonctionne comment?
Alors, cette borne, c'est en fait, simplement, c'est comme un écran informatique.
Oui, c'est ça.
Vous avez une demande de réservation, vous appuyez, vous avez un écran, après, vous choisissez le jour, l'heure. si vous êtes accompagné, non accompagné, et puis après vous validez, et puis voilà, d'accord. C'est pas très difficile. Hein. Voilà.
Et c'est un peu comme prendre son billet SNCF, quoi.
Voilà, c'est oui, ça, c'est pareil.
C'est du même ordre.
Oui. Voilà, c'est du même ordre. Oui. Et sinon, on peut aussi réserver par Internet. Donc, au sein de l'association, là, on a acheté aussi une tablette pour justement faciliter les démarches des personnes qui n'ont pas d'outils informatiques à la maison, ou qui ont besoin d'aide.
Ou qui ont simplement besoin d'être épaulées pour faire une démarche qui n'est pas facile pour eux. Voilà, j'ai vu qu'il y avait aussi dans vos missions accompagnement d'enfants au parloir.
Oui.
Alors, c'est-à-dire, parce qu'en fait, les enfants, ils sont souvent avec un parent, un grand-parent, non? Ou alors des enfants tout seuls?
Ben, Mathieu va vous...
Justement, tout à l'heure, on parlait des violences conjugales. Donc, parfois, le personne n'a le droit d'aller voir la personne détenue. Souvent, l'épouse, la maman, elle n'a pas le droit d'emmener ses enfants voir la personne détenue. Dans ce cas, ils peuvent faire appel à l'association. Et donc, certains bénévoles ont été formés donc, pour l'accompagnement d'enfants au parloir. Moi, j'ai moi-même été formée. Et donc, j'emmène des enfants donc, rencontrés. Jusqu'à maintenant, c'était leur papa ou leur maman au parloir.
D'accord.
Donc, c'est une mission qui est un petit peu difficile parce qu'au niveau de l'enfant, il faut se mettre à sa place. En général, bon, je vais expliquer un petit peu comment ça se passe. En général, la première visite, ça se passe pas trop mal, l'enfant, bon, mais c'est plus compliqué pour la deuxième visite parce que l'enfant, il sait ce qui va se passer, donc il est plus inquiet encore, je trouve. Alors, quand un enfant, donc, quand on a une demande hein, auprès de l'association hein, pour accompagner un enfant, donc, en fait, c'est tout un dossier. Hein, Brigitte règle en amont avec le SPIP, hein,
le SPIC, c'est ce que c'est.
Qui fait suivre la demande.
Le
et
SPIC,
après,
c'est le Service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Voilà,
donc, c'est un de vos partenaires, en fait. Enfin, entre guillemets.
Oui. À d'autres niveaux, mais oui, c'est un peu ça. Il y a un SPIP à l'intérieur de la maison d'arrêt. Donc, ils sont chargés, justement, dans leur mission, de faire le lien entre la personne détenue et ses proches ou sa famille.
D'accord.
Donc, quand les personnes qui viennent nous disent, ben, je sais pas ça pour mon compagnon, je sais pas quoi, qui est là-bas, je dis, ben, il faut téléphoner au SPIP à chaque personne détenue et comment...
un référent.
Voilà, c'est son
conseiller SPIP. Non, c'est le ministère de la Justice, quoi.
Oui, il relève de l'administration. Oui.
Et donc, en fait, avec la présidente, la personne qui va accompagner, ou les personnes, parce que quelquefois on est deux ou trois hein, pour un même enfant, donc on va rencontrer la personne détenue au sein de la maison d'arrêt. Et donc, on lui fait signer une charte. Hein, par exemple, sur la charte, c'est mis qu'il ne doit pas poser de questions sur ce que fait la maman.
L'enfant en otage.
Il doit donner aucun objet à la famille, à l'enfant. Mmh. Enfin, il y a tout un tas de petites choses comme ça qui sont précisées. Donc, c'est bien, tout ça, c'est bien, bien arrêté. Et puis après, la demande, donc, elle est acceptée ou pas acceptée. Et après, donc, le bénévole peut accompagner donc, l'enfant.
Au parloir.
Alors, quand un bénévole de l'association accompagne un enfant, on se retrouve exactement dans la même situation que toute personne qui vient rendre visite à un proche.
Est-ce que vous assistez à l'entretien? Vous êtes là tout le long de l'entretien?
C'est le même parloir.
C'est le même parloir.
Comme si c'était un oncle ou une tante qui venait.
Donc le bénévole reste là aussi.
Oui, je vais vous expliquer un petit peu là, justement tout le déroulement. C'est-à-dire que déjà, bon, on va expliquer à l'enfant comment ça se passe. Donc on arrive, on attend, comme tout le monde, que la porte s'ouvre. Après, on nous appelle, on donne notre carte d'identité avec l'enfant. Après, on a un sas. Donc on passe comme dans un aéroport, hein, sous le portique. Après, on nous emmène dans une première salle, on attend. Après, on vient nous chercher, on nous emmène dans le parloir, on nous enferme. Après, les surveillants vont chercher la personne détenue. Ils rouvrent la porte et on est avec la personne détenue. Donc, le bénévole, l'enfant ou les enfants, la personne détenue. Ça dure trois quarts d'heure. On est là pendant toute la durée de l'entretien. Donc, on doit rester discret. Quelquefois, on doit intervenir. On pourra en reparler un petit peu après.
Si on ne respecte pas la charte, par exemple.
Voilà, c'est ça. Par exemple, vous avez tout compris.
Bah oui, forcément.
Et ça m'est arrivé. Et puis après, donc, au bout des trois quarts d'heure, donc c'est la période la plus difficile humainement. Au bout de trois quarts d'heure, donc, le surveillant rouvre la porte, vient chercher la personne détenue, la ramène dans sa cellule. Nous, on reste avec, enfin, le bénévole reste avec les enfants ou l'enfant. Et après, on vient nous rechercher, on nous ouvre la porte et on sort. Donc, vous imaginez, si j'ai détaillé toute cette démarche, l'angoisse que ça peut créer chez l'enfant. C'est très difficile. Or, au début, c'est pas trop à quoi il s'attend. On lui explique, mais c'est pas trop. Mais après, moi, souvent, la deuxième fois, je trouve que c'est beaucoup plus difficile pour l'enfant.
Ah, puis ça doit dépendre un peu des rapports qu'ils avaient avec leur père ou leur mère. Enfin, il doit y avoir plein de facteurs associés. Et puis pour un gosse, dire que son père ou sa mère est en prison, ça doit déjà pas être facile.
D'autant plus que quelquefois, ils ne savent pas que c'est la prison. Les parents, la maman ou le papa, parce que j'ai accompagné aussi des enfants voir leur maman, enfin le conjoint qui est à l'extérieur, n'a pas précisé que c'était la prison.
Ah, donc la surprise
quelquefois, l'enfant, il ne sait pas trop où est son père. Il est au travail, quelquefois. C'est ça. Donc, on va voir le père qui, ou la mère qui est au travail. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pas à nous de dévoiler la vérité. C'est pas notre mission. Voilà. Donc, en fait, si on veut continuer sur cet accompagnement d'enfants au parloir, ce qui est très, très compliqué, c'est au moment où l'enfant va quitter son parent.
Je dirais
que c'est encore plus compliqué pour la personne détenue que pour l'enfant. C'est très, très dur. Très, très, très dur.
C'est sûr que humainement, ça doit être très difficile.
Vous avez parlé d'une formation, c'est ça? Vous êtes formé à ce genre d'entretien?
Oui.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette formation?
C'est l'UFRAMA. C'est une fédération à laquelle on est rattaché. Et il y avait déjà eu un groupe de formation il y a plus d'une vingtaine d'années. Et quand on était à nouveau très sollicité, il y a 4-5 ans, il y a à peu près 4 ans, on n'avait plus qu'une bénévole qui avait été formée d'il y a 20 ans. Et on avait une maman avec deux enfants qui était très demandeur. Ils venaient de Charleville-Mézières. C'était au moins une fois par semaine, voire plusieurs fois, parce que le monsieur avait fait appel. Du coup, il redevenait, il avait été jugé, mais il redevenait prévenu. Et la bénévole, elle assurait les permanences, mais ça devenait quand même compliqué. Donc, on a demandé une deuxième formation. C'était un autre organisme. Donc, maintenant, nous, c'était l'UFRAMA. Et le monsieur qui assurait la formation, il était à cette époque-là psychologue à Fleury-Mérogis.
D'accord.
Et il est venu, on a fait ça sur deux jours, et la deuxième journée, il est venu avec une psychologue qui également faisait de l'accompagnement d'enfants.
Alors, pour faire suite à cette question, parce que j'allais vous la poser justement, donc vous êtes une trentaine de bénévoles dans la maison,
une petite
à peu
trentaine
près.
Maintenant.
Une petite trentaine. Allez, 29 et demi. Et donc, oui, justement, je me posais la question des formations. Est-ce qu'il y a une formation générale, par exemple, pour l'écoute ou pour. Ou c'est.
Au démarrage, c'est vraiment c'est le grand bain. Donc, c'est plutôt avec les bénévoles qui sont en place.
D'accord.
Par contre, on essayait de faire tous les ans, de faire des formations collectives avec les bénévoles. Donc, on a quand même l'UFRAMA qui également propose d'autres formations concernant toujours le milieu carcéral. Et on est rattaché à la FARAPEJ, qui est également une seconde fédération qui propose d'autres stages. Donc on a des stages possibles à foison.
Ce sont des stages à composantes surtout psychologiques, approche
psychologique. Oui, quand même.
Oui,
basé sur l'écoute.
C'est l'écoute.
Ou simplement la compréhension du milieu carcéral. Oui. Donc la dernière formation qu'on a fait en collectif, c'était une avocate de Paris. Qui est venu nous faire la formation.
Ah, donc, consonance juridique, là, plutôt. Là.
Oui.
Oui, c'était une des questions que j'avais à vous poser, parce qu'effectivement, on ne peut pas s'inventer comme ça.
Oui, nous, on peut parler avec les bénévoles en place. Une personne qui va arriver, on peut la former en interne par rapport à ce qui est le quotidien, entre guillemets, du bénévole. Après, quand c'est plus, on va plus dans la profondeur, on n'est pas juriste. Donc ça va vite s'arrêter. Donc après, on peut transmettre les bases juridiques qu'on a par rapport à la connaissance avec la maison d'arrêt, etc. Mais au niveau de la trame plus généraliste,
Il faut
précise,
des spécialistes.
Voilà, il faut quand même un spécialiste.
D'accord. Et dans vos missions, je ne sais pas si on a fait le tour, je ne suis pas sûre.
Non, parce qu'en fait aussi, parfois, donc les parents vont voir leur conjoint, enfin la personne détenue, et on assure aussi, on s'occupe des enfants pendant la durée du parloir, c'est-à-dire que l'enfant ne va pas au parloir.
Il reste à la maison d'accueil.
Alors parfois, vous avez des doubles parloirs, Donc c'est deux parloirs de suite. Donc parfois, la maman, par exemple, elle va aller voir son conjoint avec l'enfant ou les enfants au premier parloir, et après elle va revenir avec les enfants à la maison rose, et puis après elle va repartir, pour voir son conjoint seul. Ça, ça arrive.
En deux étapes, quoi.
En deux étapes.
Oui, voilà. Ce qui peut se comprendre, parce qu'il y a peut-être des choses qui se disent, voilà.
Voilà. Les missions principales.
J'ai vu aussi que vous aviez aide aux indigents. Ce qui veut dire.
Ça, c'est plutôt Brigitte qui va en parler, parce que le mot indigent surprend et m'a été surprise aussi.
C'est très, très moyenâgeux. À part l'espace indigent dans les cimetières, j'avais jamais entendu le terme indigent utilisé autrement que. Donc, il y a effectivement une commission concernant les indigents qui se réunit tous les mois à la maison d'arrêt. Donc le but, c'est de venir en aide aux personnes, à toutes les personnes détenues qui ont sur leur compte nominatif, on va rentrer dans des précisions, qui ont au moins 60 euros sur leur compte nominatif. Alors le compte nominatif, c'est-à-dire que les personnes qui sont incarcérées ont toutes un compte qui est ouvert, et sur ce compte, ils peuvent recevoir de l'argent qui est envoyé par des proches, la famille, etc.
Le compte est ouvert par la prison, alors.
Comment ?
Le compte ouvert par la prison.
Oui, tout à fait.
Oui, et pour s'acheter des choses, je ne sais pas, des cigarettes.
Voilà. Hein, après, il y a 3 repas par jour, même si le repas du matin est déposé sur le plateau du soir, il y a quand même 3 repas par jour assurés, mais ça peut être un complément déjà pour les personnes qui ont des régimes alimentaires précis, donc pour compléter. Et puis effectivement, pour ceux qui fument, c'est forcément, on ne peut pas faire autrement que de passer par la case compte nominatif. Ou alors après, c'est source de tension, c'est les co-détenus qui dépannent, mais ça ne se passe pas toujours très tendrement. C'est de la solidarité qui n'est pas forcément souhaitée et voulue. Hein.
Donc ce n'est pas vraiment de la solidarité.
Voilà.
À propos de solidarité, on parle beaucoup d'un certain trafic, mais je suppose que vous n'intervenez pas, notamment de téléphone, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de relations avec des téléphones.
Il n'y a pas eu besoin d'attendre la version médiatisée actuelle pour savoir. On savait très bien que ça existe à Chalon comme partout.
Oui, j'imagine.
Et donc, pour en revenir aux indigents, donc ça permet de leur donner.
Alors, pour ceux qui sont. Alors, donc, c'est la comptabilité qui sort une liste tous les mois. Donc, toutes ces personnes répertoriées dans la liste des indigents vont recevoir une somme de 30 euros. Alors, c'est également. Ça a été conforté également par la circulaire de 2022 pour la lutte contre la pauvreté en détention.
Alors les 30 euros, c'est l'État en fait qui donne.
Oui, c'est vos impôts et les miens.
Écoutez, pour 30 euros, vaut mieux que nos impôts passent là qu'ailleurs.
Hein. Ouais. Il y a également une autre liste qui sort également pour les personnes qui ont moins de 100 euros pour donner un kit hygiène supplémentaire. C'est vraiment la lutte contre la pauvreté et pour la dignité.
La dignité humaine, oui,
aussi. Voilà, aussi.
Par exemple, les produits d'hygiène, effectivement.
Alors
c'est
nous,
important.
Par rapport à l'association, on intervient quand les personnes qui sont reconnues indigentes acceptent de prendre des cours dans le domaine de la scolarité, puisqu'il y a des enseignants détachés qui viennent donner des cours, donc des cours d'alphabétisation, des cours de français, mathématiques, on a un peu d'histoire géo, et on a des personnes qui font des formations pour passer des CAP. Alors ça va être la formation théorique. S'il y a une formation pratique, ça sera quand ils seront sortis de l'incarcération.
Il n'y a pas des ateliers pour tous les CAP ou...
Non. Donc nous, à ce niveau-là, on donne, c'est un petit coup de pouce, on donne 5 euros.
Parce qu'ils doivent payer leur formation ? Non,
non. Non, non,
non. Non, c'est juste une forme de...
C'est un coup de pouce pour dire,
vous suivez.
Vous êtes assidu dans votre formation, etc. On donne un petit coup de pouce.
5 euros mensuels ?
Voilà. Et parallèlement, le Secours catholique donne 10 euros. Donc ça fait un petit complément de 15 euros par mois.
Ça permet des dépenses un peu peut-être superflues, mais qui font du bien à la personne.
Oui, oui.
Quoi.
On appelle ça cantiner. Hein, les détenus s'appellent ça cantine.
Ah, j'ai déjà entendu ce mot-là.
Quand ils achètent des petites choses comme ça, cantine, avec leurs petites cagnottes.
Et donc on a parlé des formations, on a parlé du nombre de bénévoles. Je suppose que vous cherchez encore des bénévoles, non ?
Alors la difficulté, c'est qu'il y avait une cinquantaine de bénévoles quand moi je suis arrivée il y a 10 ans. Mais par contre, on avait des plages de permanence qui couvraient totalement les parloirs. On a eu la vague de la vague Covid où c'était fermé. On a eu la bascule, je pense un peu dans toutes les associations. On avait moins de bénévoles, il y a des bénévoles qui sont partis. Mais ce qui s'est passé également, c'est qu'ils avaient réduit également les parloirs. Il y a également, au fur et à mesure des années, des personnes qui venaient visiter les détenus et qui ne sont plus venues. C'est dans la
Mais les visiteurs de prison.
Non, personnes, les familles.
Ah, les familles, pardon.
Par exemple, pour nous, l'association, le samedi matin, on était ouvert à 8 heures. Et les bénévoles qui étaient là il y a 20 ans vous diront qu'il y a 20 ans, à 8 heures du matin, le samedi matin, dans nos locaux, il y avait minimum 30 personnes. On a enlevé cette permanence, ce créneau de samedi matin à 8 heures. On n'avait plus du tout de personnes qui venaient, parce qu'il ne venait plus du tout de personnes à la maison d'arrêt, voir les familles. Donc il y a beaucoup de moins, au fur et à mesure des années, il y a beaucoup moins de personnes qui viennent visiter leurs proches, qui sont en détention. Donc nous, on a réduit les créneaux de permanence, quand il y avait quand même des bénévoles qui disent, à part surveiller et les mouches.
Oui, c'est sûr, si c'est pas utile, autant se distribuer différemment.
Ouais. Donc on a également moins de bénévoles, moins de permanence, moins de créneaux d'ouvert. Alors, on manque un peu de bénévoles quand ça va être les périodes des congés d'été pour nos bénévoles, enfin, quand les bénévoles sont absentés. Donc, après, ça peut être délicat. Si la personne, on lui dit, on vous accueille comme bénévole, l'inquiétude pour nous, c'est de se dire, est-ce qu'elle va y trouver son compte? Parce qu'elle va voir qu'il y a des créneaux, il n'y a pas grand monde, quand même. Parallèlement, quand il venait 30 personnes, il y a 20 ans, le samedi matin à 8 heures, les familles avaient besoin d'intimité avec des bénévoles pour se dire, pour se lâcher, pour se vider l'esprit en disant, voilà, je rencontre telle difficulté. C'était pas facile. Tandis que là, maintenant, ils viennent, c'est plus facile de vider son sac. Et bon, on a les avantages et les inconvénients.
Oui.
Alors, il nous reste peu de temps. Excuse-moi, Alain.
J'allais poser une dernière question, justement. Comment vous expliquez-vous cette désaffection des familles par rapport à ces visites?
Il y a également,
le coût
que ça représente, venir de Charleville-Mézières, pour quelqu'un qui vient en train, ça lui prend la journée complète. Après, il y a les téléphones. Sans parler des téléphones portables qui sont totalement illicites, mais qui traînent partout. Depuis le Covid, ça s'est fait au fur et à mesure, et ça c'est à Chaland, les téléphones fixes, avec les lignes qui sont répertoriées à la maison d'arrêt et à l'administration pénitentiaire. Les téléphones fixes étaient dans les couloirs avant le Covid à Chalon. Et pendant le premier confinement, et c'est un hasard, ils ont été déplacés, ils ont été installés, dans chaque cellule à la maison d'arrêt de Chalon pendant le Covid.
Oui, donc il
pendant
peut y avoir confinement. Des contacts téléphoniques.
Voilà. Mais la difficulté, c'est que c'est un peu cher, surtout si la personne détenue appelle quelqu'un sur un téléphone portable.
Ah bah oui, s'ils perdent un fixe vers un portable.
Voilà.
Ils font pas de visio à la prison?
Il y a des visios qui existent, mais c'est pas avec les familles. Enfin, nous, à Chalon, c'est pas avec les familles, c'est plutôt avec les tribunaux.
D'accord.
Et c'est très, très ponctuel.
Petite pause musicale?
On n'a pas trop le temps, là, je crois. Il nous reste 2 minutes.
Quelques secondes d'Oscar Peterson, peut-être.
Oscar Peterson, oui.
Le cours de 1901 consacré à l'association Solidarité Prison Justice.
Alors, comme Chantal, on est un peu pris par le temps, peut-être qu'on pourrait parler aussi de certains événements que vous créez, dont le Noël des Kiwani, par exemple.
Alors, le Noël des Kiwani, oui, il est organisé chaque année. Donc, les Kiwani, c'est une association, comme je disais, qui dépend, qui est directement liée au Lions Club, qui vient donc aider les enfants, qui vient donc au service des enfants. Et chaque année, ils viennent donc sous différentes. Enfin, les fêtes qui sont organisées ne sont pas toujours les mêmes chaque année. Ils viennent donc au sein de l'association. Ils offrent le plus souvent un goûter aux enfants qui viennent. Dans notre maison. Donc il y a un goûter, puis ils offrent aussi des cadeaux, alors parfois des cadeaux individuels quand il y a beaucoup d'enfants. Cette année il y a peu d'enfants qui viennent à la Maison Rose, donc il y aura cette année pas de goûter pour les enfants, mais ils offrent donc des cadeaux parfois individuels et surtout un cadeau collectif chaque année à l'association.
Ah oui.
Comme les enfants viennent à la Maison Rose, nous avons beaucoup de jouets. Donc, et les plus beaux sont des jouets qui sont offerts par les Kiwani. Donc, nous les en remercions parce que c'est vraiment très important. Et cette année, donc en 2025, il a été décidé, comme peu d'enfants, je le disais il y a quelques secondes.
Il y a peu d'enfants qui viennent.
Qui viennent. Donc, les Kiwani vont offrir un goûter aux bénévoles.
Ce qui est bien aussi, c'est une forme de récompense de l'investissement.
Voilà, mais ils offriront quand même un cadeau collectif pour les enfants.
Alors, on arrive au terme de l'émission, je suis désolée. Au pire, on en fera une deuxième, si vous le souhaitez, dans quelques temps. Peut-être rappeler que cette émission sera en podcast dès la semaine prochaine sur le site de Radio Mono, que nous mettrons les différentes coordonnées de la Maison Rose, les permanences, je les ai notées, on les mettra. Et peut-être aussi préciser, puisqu'on les met sur Reims, qu'il y a une association Saphir qui a aussi une maison d'accueil des familles, amis, détenus, et qui ont les mêmes missions que vous, en fait.
C'est ça.
Voilà, donc sur Reims, c'est Saphir. Donc tout ça, ce sera renoté en dessous le podcast, si j'ose dire. Et ma foi, je vous remercie. J'espère qu'on a dit l'essentiel.
Oui, merci de nous avoir invités pour faire connaître notre association.
Oui, parce qu'elle est. Et donc, si des gens sont intéressés, qu'ils prennent contact avec vous, on mettra le mail, etc. Voilà, merci beaucoup à vous.
Merci.